Seul peut donner cette paix à ceux qui sont tourmentés. Toi seul peux pardonner à celui qui a péché. Toi seul peux relever celui qui est courbé. Toi seul peux délivrer celui qui est lié. Toi seul peux donner espoir aux désespérés. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es ressuscité des morts. Tu es le prince de la vie. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Oh, merci, Seigneur. Reste avec nous. Fais que nous soyons encore sensibles et obéissants à ta voix, à la méditation de ta parole, qu'elle soit encore une nourriture pour nos âmes. Tu veux encore nous parler, Seigneur, car nous avons constamment besoin que tu nous attires près de toi, que tu nous gardes sur le chemin, que tu nous ramènes sur le bon chemin et que surtout nous puissions aller jusqu'au bout avec toi. Merci Seigneur, aide-nous à comprendre et surtout à mettre en pratique ta parole maintenant pour ta seule gloire. Amen. Que ta parole ainsi pénètre au plus profond de nous-mêmes. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Alléluia. Amen. Pour ce dernier message, j'aimerais qu'on lise un peu comme les dernières paroles de l'apôtre Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. Les versets 6, 7 et 8, ce sont des paroles extrêmement précieuses que Paul adresse à Timothée. Paul est en prison et bientôt il va mourir comme martyr. Et là, il donne à son enfant Timothée des paroles extrêmement précieuses pour chacun d'entre nous. Et le titre du message serait un peu celui-ci: dans quel esprit devons-nous attendre le Seigneur? Dans quel esprit? Dans quel esprit devons-nous attendre le Seigneur? Et là, dans ces versets que nous allons lire, l'apôtre Paul nous révèle son attitude intérieure, comment il a vécu sa foi, comment il a servi le Seigneur. Et comment il a aimé et attendu son maître. Nous voyons en lui de belles attitudes, car ce sont ses dernières paroles, et il voulait vraiment dire à Timothée des choses importantes, pour lui-même, pour son ministère, mais pour nous aussi qui sommes parvenus à la fin des temps, car le Seigneur revient. 2 Timothée 4, verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation. » Soulignez déjà ce mot « libation », nous allons revenir tout à l'heure. « Et le moment de mon départ approche. » Le mot « départ » aussi, vous pouvez le souligner là. Nous allons le voir. « J'ai combattu le bon combat. » Combattu, souligné, combattu. « J'ai achevé la course. » Souligné, achevé aussi. « J'ai gardé la foi. » Souligné, le verbe « garder ». Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Quelle parole! Et si nous nous attardons un petit peu sur le sens de ces paroles, nous y découvrons l'attitude de Paul pour aller rencontrer son Seigneur. Et on voit, il est plein de certitude, plein de confiance, parce qu'il a fait certaines choses. Il a eu les bonnes attitudes que nous devons aussi avoir si nous voulons attendre le Seigneur d'une manière qui le glorifie. Alors, nous allons voir cinq attitudes de Paul. La première attitude, nous allons la trouver dans ce mot « libation ».« Libation ». Car pour moi, je sers déjà de libation. C'est curieux comme mot, de libation. Je suis persuadé, quand on lit cela, on se demande ce que Paul veut dire, n'est-ce pas vrai ? Je sers de libation. Qu'est-ce que Paul voulait dire ? Il parlait de sa mort, de libation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait là quelque chose de profond. Le mot libation peut se traduire, veut dire littéralement offrir sa vie en sacrifice. Autrement dit, Paul parlait de sa mort comme une offrande. Il ne dit pas qu'il allait être exécuté. Il ne dit pas dans peu de temps, Timothée, on va m'exécuter. Vous n'entendez pas parler comme ça. Il est le maître de la situation. S'il avait dit, on va m'exécuter, c'est comme s'il était là, une victime. Quelqu'un a le pouvoir sur moi. Et je ne fais pas ce que je veux. Mais pas du tout. Il est encore maître, même sur sa mort. Et il dit, je vais offrir ma vie en sacrifice. Bien sûr, non pas pour le pardon de ses péchés, car seul le sacrifice de Jésus pardonne nos péchés, n'est-ce pas vrai? Il n'y a personne, par son sacrifice, par ses souffrances, ne peut obtenir le pardon des péchés. Mais quand il dit cela, il y a une expression qui était compréhensive de ce temps-là. Dans chaque repas romain se terminait par une sorte de sacrifice. Une coupe de vin était prise et répandue pour les dieux. Voyez-vous, on prenait une coupe de vin dans les foyers romains et on répandait. Vous voyez, comme en libation. Voilà pourquoi Paul prend cette expression. Je sers de libation. Il prend l'image des Romains qui, pour leur dieu, faisaient couler ce vin comme pour dire, voilà, notre vie vous appartient. Et Paul prend cette image pour dire, eh bien, me voici arrivé. C'était le soir à la fin de chaque repas qu'il faisait ça. Et c'était comme s'il voulait dire à Timothée, le soir de ma vie approche, Timothée. Le soir de ma vie est là. Et on ne va pas m'exécuter. c'est moi qui vais offrir ma vie en sacrifice, non pas pour le pardon des péchés, parce qu'il était déjà pardonné par le sacrifice de Jésus, mais en reconnaissance à l'égard de celui qui s'était sacrifié pour lui. Amen. Et voilà une attitude merveilleuse devant la mort et devant le retour du Seigneur. Voilà comment Paul concevait cette chose. Il n'était pas là en train de faire une dépression dans sa prison, comme cela pourrait nous arriver, n'est-ce pas, en disant, « Seigneur, tu m'as abandonné. » On pourrait tous penser cela et dire, « Seigneur, je t'ai servi pendant des années et voilà maintenant que je finis en prison. » Pour certains, ils auraient pu penser, « Paul finit sa vie d'une manière lamentable en prison. » Mais Dieu ne voit pas les choses comme cela. Amen. Dieu ne voit pas les choses comme cela. Car c'est en prison qu'il a écrit les plus belles épîtres. C'est là qu'il a révélé son cœur. C'est là qu'il a montré quelle était l'attitude intérieure de son âme pour son maître. Ce n'est pas quand tout va bien que l'on peut voir qui vous êtes, mes amis. Non. C'est quand tout va mal, quand tout se presse contre vous, quand on vous rejette, comme Paul, il était comme un malfaiteur rejeté. C'était la personne indésirable. Personne ne voulait être l'ami de Paul à ce moment-là. Il était synonyme de rejet, d'abandon, de renégat. Mais c'est là qu'il a révélé une attitude absolument admirable. Car pour moi, Timothée, je sers déjà de libation. Personne ne m'exécute. Je suis le prisonnier de personne. Je suis le prisonnier du Seigneur. Et prisonnier d'amour volontaire. Et ma vie n'est pas exécutée. Je l'offre pour mon Sauveur. N'est-ce pas merveilleux? Même si tu veux que je meure, Seigneur, que ta volonté soit faite, je veux te glorifier. Quelle belle attitude! Quelle précieuse qualité! Mes amis, rien ne peut nous arrêter si nous savons que nous sommes dans la main de Dieu et que Dieu fait tout concourir toutes choses pour notre bien, parce que nous l'aimons. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ce verset n'est pas pour toi. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, vous connaissez ce verset. Mais pour ceux qui aiment Dieu, et Paul aimait son Sauveur, et il savait qu'il ne se trompait pas. Et quelle belle attitude. Alors que tout était contre lui, il n'a jamais douté de son maître. Alors que tout semblait une faillite, il n'a pas changé dans son attitude à l'égard du Seigneur. Amen. Quelle fermeté, quelle confiance, quelle assurance. Car pour moi, Timothée, je sers déjà de libation. On pourrait penser une autre attitude, mais il est là, Timothée, personne ne m'exécute. Je suis prêt à donner ma vie pour le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Que nous puissions ainsi avoir cette belle attitude en attendant le retour du Seigneur. Que nous puissions faire sa volonté coûte que coûte. Et ne réalisons pas que nous sommes victimes des circonstances ou des hommes. Si nous aimons Dieu, le Seigneur est le Tout-Puissant et le Souverain. Amen. Ce n'est pas les hommes qui commandent, c'est le Seigneur. Notre vie est dans sa main et non pas dans la main des hommes. Paul n'a jamais pensé que sa vie était entre les mains des Romains. Jamais. Même en prison, sa vie était entre les mains du Seigneur. Alléluia. Crois-le. Même en prison, ta vie est entre les mains du Seigneur. Ne doute pas. Offre ta vie. Ne te rechigne pas. Ne résiste pas. Quelles que soient les circonstances, même si tu es rejeté, le Seigneur, lui, ne te rejette pas. Il veut que tu cherches toujours à faire sa volonté jusqu'au bout, par la foi, en ne doutant jamais de son amour à ton égard. Un autre mot qu'il faudra souligner, car pour moi je sers déjà de libation, est le moment de mon départ approche. Souligner le mot départ. Bien sûr, là aussi, il parle de sa mort. Mais il parle de sa mort comme un départ. Nous, on dirait ici, la mort, c'est la fin. Ça y est, c'est fini. Timothée, c'est terminé. C'est fini. Non. Paul dit, c'est mon départ. C'est un départ. Il ne dit pas, tout est fini pour moi. Il dit, tout va commencer maintenant. Tout va commencer. C'est un départ. Et quand nous partons vers le Seigneur, ce n'est pas la fin, c'est la fin ici-bas. Mais ce sera pour entrer dans un commencement éternel qui ne finira jamais. Alléluia! Et vous savez, quand il utilise ce mot « départ », il y a plusieurs sens dans le mot grec. Et Paul pensait à cela. Et ceux qui ont lu cela, Timothée aussi, comprenaient le sens. Le mot « départ » a plusieurs sens. Est en rapport avec le fait de quitter cette vie. Alors ce mot était utilisé pour libérer un animal de son joug ou de sa charrue. Donc pour Paul, sa mort était le repos après le travail. Voyez-vous, c'était le joug qu'on enlevait, la charrue qu'on ôtait après le travail. C'est comme si Paul disait à Timothée, voilà, maintenant le Seigneur m'enlève le joug. Je laisse ma charrue derrière moi pour entrer maintenant dans le repos éternel. Alléluia. C'est le moment de mon départ. Maintenant, je vais entrer dans la présence du Seigneur. Il allait être libéré du joug et des fardeaux, des activités de ce monde et de l'Église pour entrer dans les verts pâturages, pour aller près des eaux paisibles et jouir du repos dans le ciel. Pour l'éternité. Le moment de mon départ approche, Timothée. J'ai fini mon travail. Le joug est enlevé. J'entre dans le repos éternel. Alléluia. Il y avait un deuxième sens. Ce mot était utilisé pour la libération de chaînes et de liens. Pour Paul, la mort était une libération. Il allait échanger les limites de la prison romaine pour la glorieuse liberté de la cité céleste. Alléluia. Timothée, je suis en prison, mais mon départ approche, mes chaînes vont tomber pour entrer dans la cité céleste où la liberté sera mon partage pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? Le moment de ma libération approche. Le moment de mon repos approche. Et une troisième expression. Ce mot était utilisé pour défaire les cordes d'une tente. Pour Paul, le temps était venu de quitter ce monde pour se rendre dans sa résidence permanente, le ciel. Quitter une tente. Quand on quittait une tente, on employait ce mot grec. Et lui aussi quittait cette tente pour entrer dans les tabernacles célestes de la gloire de Dieu. Amen. Pensons à nous aussi. Un jour, nous devons tous mourir. Si le Seigneur ne vient pas nous chercher, tous nous devons passer par ce chemin-là. Puissions-nous considérer ces vérités importantes. C'est un départ. Ce n'est pas une fin. Le plus important est à venir. Ce que nous faisons ici-bas, c'est ce qui nous prépare pour l'éternité. Selon la fidélité et la consécration que nous avons eue ici-bas, Dieu nous donnera des talents et un ministère en correspondance avec ce que nous avons fait. Si nous avons été fidèles en peu de choses, Dieu nous confiera peu de choses là-haut. Mais si nous avons été fidèles en beaucoup de choses, Dieu nous confiera beaucoup. C'est à nous de pouvoir ainsi faire dès ici-bas tout ce qui est en notre pouvoir. Un troisième mot, il est dit « j'ai combattu le bon combat ». Soulignez le verbe « combattre ». Le mot grec ici est utilisé pour un combat dans une arène et qui a la pensée d'agonie. Paul voit la vie chrétienne comme un combat, une lutte intense pour rester fidèle au Seigneur et à sa parole et à défendre la pureté de l'Évangile, quelle que soit notre place dans l'Église. Amen. Voilà une autre attitude dans l'attente du Seigneur. Combattre le bon combat. Et ce verbe exprime une agonie. C'est l'image de deux athlètes qui luttent l'un contre l'autre à l'agonie pour défaire l'autre. C'est une lutte intense. Et nous aussi, nous devons lutter d'une manière intense pour la foi, pour la pureté de l'Évangile. Dans ces temps de la fin, vous le savez comme moi, que de confusion. Et beaucoup de chrétiens et de pasteurs ne supportent plus la saine doctrine. On en est là. Et ceux qui veulent combattre pour la saine doctrine sont ridiculisés, sont rejetés. On se moque de ces gens-là. On les rejette, on dit qu'ils jugent, qu'ils condamnent, alors qu'ils cherchent tout simplement à rester fidèles au Seigneur et à sa parole. Mes amis, si tu veux, si vous voulez, si nous voulons combattre ce bon combat pour rester fidèles, ce sera un combat intense. Tu auras des difficultés insoupçonnées. Tes meilleurs amis, peut-être, t'abandonneront. D'un seul coup, ils te tourneront le dos, te calomnieront. Ceux qui étaient des amis avec toi, qui mangeaient avec toi, se dressent maintenant contre toi. Tout simplement parce que tu ne veux pas marcher avec eux dans les voies tortueuses de l'hérésie ou des fausses doctrines. Parce que tout simplement, tu combats ce bon combat de la foi. Et Paul dit à Timothée, j'ai combattu ce combat-là. Il a été intense. Que de fois Paul a été rejeté, malgré tout le travail merveilleux qu'il a fait, n'est-ce pas ? Rejeté par les Corinthiens, par d'autres, que de fois on l'a méprisé. Et là, il finit sa vie presque seul. Tous m'ont abandonné, dit-il. Mais le Seigneur, lui, ne m'a pas abandonné. Il est resté près de moi. Quelle belle parole. Voilà le prix d'un combat intense. Certains t'abandonneront peut-être. Mais le Seigneur, lui, jamais. Alléluia. Et c'est son approbation qui compte. N'est-ce pas vrai? Tu auras des combats. Ne sois pas étonné. N'abandonne pas le combat parce qu'il est intense. Parce que de tous les côtés, ça bouge, ça siffle. Combat jusqu'à l'agonie. C'est le mot que Paul utilise. Et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Si tu passes par telle épreuve à cause de la fidélité au Seigneur, le Seigneur sait que tu es capable de traverser cette épreuve. Sinon, il ne te l'aurait pas fait passer. Il dose toutes tes épreuves. Il dose tous tes combats. S'il t'a jugé digne de passer par cette épreuve, par ce combat, alors fais-lui confiance, honore-le. Ne dis pas, je ne peux pas. S'il te fait passer par ce chemin, c'est que tu le peux avec sa grâce. Honore-le. Ne recule pas. Ne laisse pas tomber ton épée. N'enlève pas ton armure. Paul dit à Timothée, j'ai combattu. Et il a vu ses combats. Il y a eu de grandes victoires. Il y a eu des grands combats aussi. Quand il a écrit à Timothée, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Quelle souffrance pour lui, n'est-ce pas? Son collaborateur proche, au moment où il avait besoin de lui, dans cette, justement ce combat intense, voilà que les uns après les autres l'abandonnent. Quelle belle attitude, ce combat, cet esprit de combat intense qu'on maintient jusqu'au bout. Amen. Voyons un quatrième mot maintenant. Après, il est dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il parle ici, il est question ici d'un athlète. Il a commencé et achevé la course. Ce n'est pas le tout de bien commencer, il faut encore bien finir. Beaucoup de chrétiens commencent bien, mais beaucoup finissent mal aussi. Il vaut mieux mal commencer, mais bien finir, que de bien commencer et mal finir. Mais le mieux, bien sûr, c'est de bien commencer et de bien finir. Ça, c'est le mieux. Mais si tu as mal commencé, tu peux bien finir. Mais c'est tragique si tu commences bien et que tu finis mal. J'ai achevé la course. Il faut aller jusqu'au bout. On est sur la dernière ligne droite. Quand on voit les athlètes, la dernière ligne droite, on les voit, ils prennent le dernier virage. C'est là, vous avez remarqué, ça se bouscule un petit peu. C'est la dernière ligne droite, il y en a un qui veut passer avant. On fait du coup, des tours. Vous recevez des petits coups par-ci, par-là. Mais vous les voyez, ça y est. À un moment donné, celui qui était devant, vous le voyez flancher. Et celui qui était derrière, il se met sur le côté. Et il avance, et il avance. Et il persévère, et il persévère. C'est la dernière ligne droite. C'est pas le moment de s'arrêter. Tu peux recevoir des coups, mais ne te laisse pas arrêter. Continue. Le Seigneur est derrière, à la ligne d'arrivée. Il a dit, il t'attend pour que tu te jettes dans ses bras. Alléluia. Ne tombe pas avant l'arrivée. Tombe après. Si tu veux tomber, tombe après la ligne d'arrivée. Mais ne tombe pas avant. Tombe après la ligne d'arrivée. Et si tu veux tomber, Jésus sera là. Tu tomberas dans ses bras. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ne vous lassez pas l'âme découragée. Dans l'épître aux Hébreux, il est parlé de cela. Ne vous lassez pas l'âme découragée. Il y a justement l'image d'un athlète qui arrive près de la ligne d'arrivée. Et c'est comme s'il s'est enlevé. Ne te décourage. Si tu dois tomber, tombe après la ligne d'arrivée. Pas avant. J'ai achevé la course. Il y a trop de chrétiens qui commencent quelque chose, mais qui ne finissent pas. C'est un très mauvais signe de maturité spirituelle. Quand on commence beaucoup de choses, qu'on ne finit jamais. Des œuvres achetées, des œuvres inachevées, révèlent un caractère instable et déplorable. Beaucoup de chrétiens commencent beaucoup de choses. Oh, vous allez voir, avec moi, ce sera le réveil. Et on méprise les autres. Ah oui, je vous l'avais dit, tu dors, tout le monde dort ici. Et ils nous font cette impression qu'avec eux, ça va marcher. Mais 15 jours après, il n'y a plus personne, ils sont par terre. La plus petite difficulté, la première objection, contradiction. Et ils ne sont plus là. Non, j'ai achevé la course. Est-ce que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout? Le Seigneur se tiendra près de vous, il ne vous abandonnera jamais. Il vous attend là-bas, mais il est aussi avec vous. Il vous soutient aussi. Achève ta course. N'abandonne pas avant la ligne d'arrivée. Il t'attend pour te récompenser. Prends courage, mon frère, ma sœur. Prends courage, il revient. Sa récompense. Sa rétribution est avec lui. N'arrête pas. Ne t'arrête pas. Va jusqu'au bout. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche à plaire.
Achevé la course, j'ai gardé la foi. Soulignez le verbe garder ici. Et le verbe garder dans le texte grec ici est très important. J'ai noté ceci. Ce mot grec, donc garder, était utilisé dans les affaires. et qui est à l'idée d'un contrat, d'un engagement entre Christ et Paul, entre Paul et son maître. Donc, voyez-vous, il y a l'idée d'un engagement, d'un contrat. J'ai gardé la foi. Paul voulait dire, j'avais fait un contrat avec le Seigneur de prêcher sa parole fidèlement jusqu'au bout. J'ai gardé ce contrat. J'avais fait un engagement que j'irai jusqu'au bout dans mon engagement. Je l'ai fait. Il est question, c'est un terme qui correspond à un gérant. Un gérant, un jour, on lui demande des comptes, n'est-ce pas vrai? Et Paul dit, Dieu m'a confié une responsabilité. Et un jour, il m'en redemandera des comptes. Savez-vous que Dieu vous a aussi confié une responsabilité? Vous êtes comme le gérant des affaires du Seigneur. Il vous a confié son évangile, la pureté de l'évangile. Est-ce que vous avez gardé les termes du contrat? Il y en a malheureusement avec les temps d'apostasie d'aujourd'hui qui abandonnent ce contrat, n'est-ce pas vrai? Pour suivre des doctrines étrangères, des traditions humaines, des philosophies païennes et je ne sais quoi. Ils n'ont pas gardé le contrat. Comme un bon gérant, ils ont violé ce contrat. Vous aurez des comptes à rendre, j'aurai des comptes à rendre, vous en aurez aussi. J'ai gardé la foi, c'est cela. Le verbe garder veut dire qu'on est un gérant. Il nous a confié une responsabilité et nous demandera des comptes. Il y en a qui pensent que ça c'est pour les pasteurs ou évangélistes qui vont rendre des comptes. Mais nous, moi, un petit chrétien, une petite chrétienne comme moi, j'ai pas de compte à rendre, moi. T'as pas de compte à rendre, tu en auras comme tout le monde. Bien sûr, tu n'as pas la responsabilité d'un apôtre Paul, ou d'un Timothée, ou d'un Pierre, ou d'un Jean, naturellement. Mais il t'a confié quelque chose. Il t'a confié la fidélité de l'évangile. Pour que tu croies en cela, et que tu gardes ce message fidèle jusqu'à la fin. Il t'en redemandera des comptes. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour respecter ce contrat. Et beaucoup, malheureusement, l'ont enfreint, l'ont violé ce contrat, par crainte des hommes, par plaisir de vivre de nouvelles choses qui ne sont pas dans la Bible. Comment savoir si une chose vient de Dieu ou pas? Si elle n'est pas selon l'enseignement de Jésus et de ses apôtres, c'est à rejeter énergiquement et systématiquement. Amen. Ça ne fait pas partie du contrat. Dieu ne veut pas que tu t'engages avec un contrat qui n'est pas selon la parole. Le contrat est là. Tu ne dois pas t'engager avec n'importe quoi. Tu dois t'engager avec le contrat de la parole, de l'évangile, que nous devons garder. Nos prédécesseurs, comme Paul, Timothée et autres, et tous, au travers des siècles, ont préservé cet évangile avec pureté, intégrité. Et Dieu nous demande maintenant de tenir le flambeau et d'aller jusqu'au bout avec ce flambeau. J'ai gardé la foi. J'ai gardé le contrat. Le contrat, je l'ai gardé. Et c'est pourquoi il pouvait se présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai gardé ton évangile tel que tu me l'as donné, au prix de grandes souffrances, mais je l'ai gardé. C'est bien, mon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, viens, je te confierai beaucoup. Amen. Voilà l'attitude que nous devons avoir, ces cinq attitudes devant le retour du Seigneur, que rien ne nous arrête. Amen. Que rien ne t'arrête, mon frère, ma sœur. Il revient et il offre à tous ceux qui aiment le Seigneur cette couronne de justice qu'il a en réserve pour tous ceux qui l'aiment. Il n'y a pas de couronne sans croix. Mais il n'y a pas de croix sans couronne aussi. La croix est pour ici-bas. Et la couronne est pour là-haut. ne cherche pas à avoir une couronne ici-bas, parce que là-haut, tu n'auras plus rien du tout. Prends la croix ici-bas, et tu auras la couronne là-haut. Amen. Prends ta croix ici-bas. Ne cherche pas à porter une couronne. N'accepte pas les couronnes que les hommes te donnent pour ta perte. N'accepte pas les couronnes que le diable veut te donner au travers des hommes pour ta perte. N'accepte pas. Dieu te donnera, lui, sa couronne de justice. C'est-à-dire qu'il a tout vu. Ce que les hommes n'ont pas vu, n'ont pas entendu, tes larmes, tes souffrances, ta consécration, tout ce qu'on t'a fait parce que tu aimes le Seigneur. Chaque goutte de tes larmes ont été enregistrées par le Seigneur. Chacune de tes larmes sont enregistrées au ciel. Et tu seras récompensé pour ton amour pour le Seigneur et pour sa parole. Puissions-nous garder cette sainte attitude, car il revient bientôt et sa rétribution est avec lui. Seigneur Jésus, viens bientôt. L'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cet exemple merveilleux de Paul qui nous rappelle comment nous devons nous comporter à l'aube de ton retour, dans la perspective de ce retour où tout nous rappelle que tu reviens bientôt. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles coûte que coûte et de pouvoir ainsi entrer dans la paix, le repos et le bonheur éternel. Après la croix, la couronne pour l'éternité. Et nous, cette couronne que tu nous donneras, nous la jetterons à tes pieds. Et nous te dirons à toi seul la gloire, Seigneur.
Amen,
à toi seul la gloire.
Amen, Seigneur.
À toi seul le règne. À toi seul la puissance.
Oui.
Et à toi seul l'honneur.
Alléluia,
au siècle des siècles. Amen.
Amen, amen.
Restons dans la prière encore quelques instants.
Une dernière parole prophétique de la part
dans la prière
du Seigneur.
Gloire à ton nom.
Pour vous, peuple de Dieu, de ces temps de la fin. Des paroles qui m'ont été données avant, la semaine dernière, et qui viennent confirmer un point qui vient d'être donné, sans que je sache sur quoi, bien sûr, Samuel allait prêcher. Voici ce que le Seigneur vous laisse comme dernière parole prophétique aujourd'hui. Peuple de Dieu, ne sois pas étonné des difficultés, des combats, des épreuves qui sont votre lot en cette fin des temps. L'adversaire, le diable, a décidé de vous cribler. Mais souvenez-vous, dit le Seigneur, que je suis néanmoins sur le trône.
Alléluia.
Je suis le souverain maître,
Amen.
Le Seigneur de gloire, et je ne permettrai jamais, dit le Seigneur, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Souvenez-vous, mes enfants, que je vous aime et que je suis fidèle. Je ne permettrai pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Il le répète deux fois parce qu'il sait que nous en avons besoin. Mais avec la tentation que je permets parfois, souvenez-vous aussi que j'ai préparé le moyen de vous en sortir. Et cela afin que vous puissiez la supporter, dit le Seigneur. À celui qui vaincra,
Alléluia.
Je donnerai, dit le Seigneur,
Amen.
La couronne de la vie. Que chacun de nous puissions être trouvés devant sa face, sans reproche, irréprochable, tenant bon jusqu'à la fin.
Seigneur.
Levons-nous dans la présence du Seigneur un petit instant
Merci, Seigneur.
Et reconsacrons nos vies
Alléluia.
Au Seigneur.
Ayons un petit moment,
un tout petit moment
de prière devant le
voilà.
Seigneur. Chacun
pour...
devant le Seigneur. Selon ce qu'il vous a mm-hmm. parlé, parlez-lui maintenant.
Mm-hmm. Amen.
Ouvrons-lui notre cœur.
Amen, Seigneur.
Et Jésus. Reconsacrons-nous
oui.
à lui
mm-hmm.
pour qu'il prenne toute la place.
Amen.
Qu'il soit sur le trône de notre cœur.
Mm-hmm.
Que nous
Amen.
Ne soyons plus nous-mêmes sur le trône de notre vie.
Mm-hmm.
Mais que Jésus soit sur le trône.
Alléluia, Seigneur.
Et que sa seule volonté se fasse
dans votre vie.
Et non
et dans
la
nôtre.
Merci,
Alléluia,
Seigneur.
Seigneur.
Prends nos vies.
Oui,
elles
Seigneur.
Elles sont toutes à toi.
Amen, Jésus.
Pour ta gloire seule.
Amen,
Alléluia.
Seigneur. Alléluia.
Merci, Seigneur. Béni sois-tu.
La musique, si vous voulez vous approcher.
Alléluia.
S'il vous plaît.
Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
Oui.
Restons encore dans le recueillement.
Restons dans la présence du
Merci,
Seigneur.
Merci Seigneur pour ta parole qui
Nous
est la vérité.
Nous allons bientôt terminer.
Merci Seigneur pour ta fidélité.
Amen Seigneur.
Alléluia.
Alléluia Jésus.
Pendant que nos amis vont chanter.